There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Popo Richaud targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Popourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans. Sur CUT 89,5 FM, Popourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année, la radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette, with butter or marmelade?
Bonjour mes amis, je m'appelle Zachary Richard et je vous salue de la Louisiane. Et je vous encourage de célébrer notre héritage francophone pendant ce mois de la francophonie. Ici en Amérique du Nord, de parler français n'est pas seulement un engagement envers le passé, mais surtout vers l'avenir. De parler une langue, ce n'est pas tout simplement une façon de communiquer, mais c'est aussi une façon de voir le monde. Notre héritage francophone n'est pas seulement ce riche parler, mais c'est aussi des valeurs de tolérance, d'ouverture et d'inclusion. Soyons fiers de notre héritage francophone et faisons, comme disait Senghor, de tisser cet humanisme autour de la terre. Merci beaucoup.
À l'occasion du mois de la francophonie, Popourri Show, CUTFM, en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie, les rendez-vous de la francophonie, le Festival Ciné Franco Jeunesse, le Centre de la francophonie des Amériques, présente Rire aux éclats. Un thème qui fait un clin d'œil à la tournée d'humour des rendez-vous de la francophonie du 1er au 31 mars. Tout au long du mois de mars, CUTFM poursuit sa tradition avec des émissions spéciales afin de célébrer les valeurs communes de la francophonie que sont la solidarité, la diversité culturelle et la démocratie. Car s'ouvrir sur la francophonie, c'est avant tout s'ouvrir sur le monde. Restez à l'affût de notre programmation et les activités de nos partenaires en cliquant sur popourrishow.com. Mais que se passe-t-il dans l'espace francophone en 2024? Comment expliquer le déclin de la langue française partout au Canada? S'agit-il d'une réalité ou d'une exagération? Le déclin du français au Québec, alarmiste ou réaliste? Comment vit-on l'insécurité linguistique? Pourquoi les jeunes enseignants décrochent? Témoignage choc. Pourquoi les francophones utilisent-ils encore et toujours des mots anglais lorsque des mots français équivalents existent déjà? Le français est-il encore une langue internationale? Mois de mars 2024, rire aux éclats. Chansons, jeux concours, enquêtes, conférences, littérature, dictée de la francophonie. Concerts, humour et des surprises avec CUTFM et ses partenaires en collaboration avec RFI, France Inter, France 24, TV5 Monde. Popourri Show croit fermement en une francophonie plus solidaire, plus forte, plus inclusive et plus riche. Une francophonie vivante, plurielle, engagée et innovante. Bon mois de la francophonie sur CUTFM. Et popourrishow.com. Bonne célébration.
Merci.
Bonjour Louise Michikiwabo,
bonjour,
secrétaire général de la francophonie. On est ici dans le cadre de ce château de Villers-Cotterêts, qui n'est plus vraiment un château, c'est une cité internationale de la langue française inaugurée avec vous, Louise Michikiwabo, et le président de la République Emmanuel Macron aujourd'hui. C'est un message important pour vous d'être là aux côtés du président de la République française.
C'est très important pour la francophonie et la francophonie institutionnelle, donc l'Organisation internationale de la francophonie, d'être présent à Villers-Cotterêts aujourd'hui, parce que cette cité internationale de la langue française, nous, la francophonie, nous sommes la partie internationale dans ce titre-là. Et je connais cet endroit, j'ai eu l'occasion au mois de mars dernier de venir, de faire un peu le tour. J'étais très positivement étonnée de voir à quel point la créativité, l'innovation, l'aspect ludique de la langue française... C'est tout un voyage.
Oui, oui. Le président de la République, Emmanuel Macron, dit que c'est unique au monde, en fait, ici. Voilà, c'est au fond de dire la langue française doit vivre d'un lieu comme ça pour que toute la création s'exprime. Et au fond, dire, oui, la langue française doit exister ici, en France.
Je suis d'accord avec le président de la République. Bien évidemment, Villers-Cotterêts et la langue française, c'est la France. Mais nous, la francophonie, nous avons aussi adopté cette langue, nous la sommes appropriée, nous l'avons enrichie, j'espère, sur les 5 continents, nous lui avons donné des couleurs, des saveurs, et donc cet endroit, effectivement, doit exister. Alors, ici, si j'ai bien compris, parce que c'est quand même un coin... des grands de la langue française, donc symboliquement, oui, Villers-Cotterêts, c'est l'endroit où cette langue française, qui est une langue mondiale, doit vivre et s'exprimer.
Oui, oui, et citer François Ier, qui a signé ici cette ordonnance qui rendait la langue française obligatoire dans les actes administratifs contre, à l'époque, le latin. Mais au fond, on se dit, François Ier avait raison de dire, au fond, pour faire survivre la langue française, il faut la rendre presque obligatoire, ou c'est plus une méthode aujourd'hui?
Alors, la langue française aujourd'hui, d'ailleurs, le président Macron en a parlé très éloquemment tout à l'heure. Pour nous, du point de vue des francophones, de ceux qui ont pris la langue française, ont appris la langue française et qui la déclinent au quotidien, nous n'aimons pas beaucoup la partie obligation. En réalité, parce que nous avons des identités multiples. La langue française est une des langues parlées par la grande majorité des francophones, car en réalité, à part la France et le Québec, peut-être, tous les autres 86 États et gouvernements membres ont leur propre langue maternelle, leurs autres langues qui sont parfois même régionales. Et la langue française, pour nous, c'est une langue qui est venue s'ajouter à notre identité linguistique, mais que nous portons avec grand plaisir.
Oui, oui, le président rappelait qu'aussi, cette langue française s'est imposée dans le monde par la colonisation, et que, au fond, aujourd'hui, ça doit devenir une langue, et c'est une langue de liberté. C'est-à-dire qu'au fond, il y a cette histoire, mais elle est dépassée d'une certaine façon.
Cette histoire est dépassée, et elle est dépassée parce que les fondateurs de la francophonie, des hommes anciennement colonisés, ont choisi la langue française pour s'exprimer à travers le monde, pour créer une coopération entre les peuples qui parlent cette langue. Et donc, à l'origine, la langue française est venue de cette terrible expérience de la colonisation, mais finalement, je dirais, comme certains le disent parfois, en guise de revanche, nous, les francophones, avons pris cette langue et nous en avons fait notre propre langue. Et donc, l'imposer, non. C'est une langue aujourd'hui qui est parlée par plus de 320 millions de personnes dans le monde, avec des perspectives de croissance sur le plan mondial grâce à la démographie africaine. Plus de la moitié des pays membres de l'Union africaine sont francophones, malgré le fait que cette langue recule, notamment en Europe, et dans les organisations internationales, c'est une langue qui reste en croissance parce que le Sud, ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, porte cette langue en termes de démographie.
Oui, mais vous diriez aussi, oui, c'est une langue de liberté, au fond. Elle porte ces valeurs-là dans le monde d'aujourd'hui que l'on connaît déchiré, marqué par la guerre.
C'est vrai. La langue française est associée depuis très longtemps à la notion de liberté. Mais je sais que ceux qui parlent d'autres langues aussi nous disent, nous-mêmes, nous avons les mêmes valeurs de liberté, d'humanité, d'humanisme, de valeurs culturelles. Et donc, je préfère ne pas être chauviniste.
Oui. Mais vous diriez ici ce lieu de vie, cette cité. Oui, c'est pas un musée, cette cité. L'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, veut se l'approprier aussi d'une certaine façon.
Absolument. Alors, nous sommes déjà partenaires de cette belle cité. Effectivement, c'est une cité parce que ce n'est pas un musée, c'est toute une expérience. C'est toute une expérience qui parle à divers publics. Et en réalité, pour nous, la francophonie, nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, une partie de ce qui s'exprime ici, dans cette cité. Nous avons collaboré, l'OIF a collaboré au parcours de cette belle cité. Nous avons apporté la partie mondiale de la langue française en termes de géographie, en termes d'enrichissement de la langue. Vous savez qu'on a inauguré il y a 2 ans le grand dictionnaire des francophones avec des mots formidables, des expressions humoristiques, très riches, qui enrichissent aujourd'hui la langue française. Et donc, oui, cette cité internationale de la langue française nous appartient aussi.
Oui, elle est à vous. Donc, vous allez y faire des spectacles, vous allez y promouvoir des événements culturels.
Alors, nous avons l'intention d'apporter cette cité vers les francophones du monde en les amenant ici. Dans le domaine linguistique, dans le domaine culturel, nous allons nous assurer que les francophones du monde savent que cet endroit existe et nous allons bien évidemment leur faire profiter des différents programmes, y compris des résidences d'écrivains. Le président a parlé tout à l'heure et ça m'a parlé directement parce que je suis de cette profession-là. Il a parler de la vie de la langue française à travers la traduction. Oui. Donc ce sera aussi un endroit de traducteur et moi je suis traductrice de formation français-anglais et donc cet endroit m'appartient aussi sur le plan personnel.
Oui. Et il va vous appartenir d'autant plus que le prochain sommet de la francophonie sera ici.
Ici, à Villers-Cotterêts.
Voilà. Et donc, c'est un lieu magique, j'allais presque dire. C'est une grande maison pour la francophonie l'année prochaine, ici même, à Villers-Cotterêts.
Alors, en octobre prochain, effectivement, le 19e sommet de la francophonie aura son ouverture ici, à Villers-Cotterêts. Des dirigeants du monde entier, la société civile du monde entier, les hommes et femmes d'affaires, le monde culturel se retrouvera ici, dans ce sommet de la francophonie qui va être abrité par la France. Et donc, oui, je pense que le sommet de la francophonie en 2024 sera aussi une célébration de la Cité internationale de la langue française.
À l'intérieur, il y a des mots qui sont accrochés au mur, choisis par les habitants. Alors, j'en ai noté quelques-uns. Ziboulateur, tataouiné, carabistouille, clavardage. Vous préférez lequel, madame la secrétaire générale?
Alors, quand je suis venue ici il y a plusieurs mois, j'avais déjà admiré plusieurs mots que je ne connaissais pas. Et Aujourd'hui encore, j'ai passé plusieurs minutes à essayer de retenir par cœur ces mots-là. Impossible. Mais celui que j'aime beaucoup, deux mots que j'ai pu voir aujourd'hui et que j'aime pour différentes raisons. Il y a cadonner, parce que j'aime recevoir des cadeaux. Cadonner.
Tenez, voilà, un cadeau, le numéro de Beaux-Arts.
Cadonner et vendredir. Et donc, vendredir, je pense que tous les vendredis soirs, quand on sort du bureau, on a ce petit sentiment de fête pré-week-end, pré-fin de semaine. Et ces deux mots-là, aujourd'hui, ce sont mes favoris.
Merci alors de nous avoir cadonné de votre présence.
Grand plaisir.
Louise Buchy-Kiwabo, secrétaire générale de la francophonie ici au château de Villers-Cotterêts, la cité internationale de la langue française inaugurée aujourd'hui avec vous, madame la secrétaire générale et le président de la République, Emmanuel Macron. Merci beaucoup d'être venu sur TV5.
Merci Patrick, un plaisir.
Avec la nouvelle application Apprendre le français avec TV5 Monde, apprenez le français où vous voulez, quand vous voulez. 3000 exercices variés et amusants à partir de vidéos directement issues de nos programmes pour améliorer votre compréhension orale du français. Débutant ou confirmé, on vous guide pas à pas avec des tas d'astuces et de conseils. Avec l'appli Apprendre le français avec TV5 Monde, le français, c'est simple comme bonjour. Disponible gratuitement sur iOS et Android.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Stream us anytime at www.ciut.fm.
Quoi de neuf? Les cafés du Créfour. En partenariat avec Popourri Show et CIUT 89.5 FM. Comment évoluent nos modes de vie et nos sociétés dans le monde? Comment se porte le monde de l'éducation, les francophonies et la diversité? Bienvenue au podcast Quoi de neuf à les cafés du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, et la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto et l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario. Le CREFO, un centre de recherche interdisciplinaire qui pose un regard critique sur les pratiques éducatives, sociales et langagières de la francophonie en Ontario, au Canada et dans le monde. Abonnez-vous au podcast Quoi de neuf à les cafés du CREFO et c'est gratuit. Vous pouvez y avoir accès où que vous soyez dans le monde. Et cette troisième saison est animée par professeur Laura Bisaillon et tourne autour du thème de la production, de la diffusion des connaissances sur les mobilités, les francophonies, la minorisation, le corps et l'État dans divers contextes du monde. Quoideneuf.ca. Abonnez-vous maintenant. En 2024, CUTFM, en partenariat avec RFI France 24, et ses partenaires communautaires francophones créoles, vous fait découvrir les francophonies dans toute leur diversité. Pour rien au monde, ne manquez pas nos grands rendez-vous. Festival Jeunesse Ciné Franco, Festival Théâtre Communauté des Noirs, avec la compagnie Théâtre Créole, en février et mars. Le mois de l'histoire des Noirs, en février avec Sophie Franc. Le mois de la francophonie en mars. Le mois de l'histoire autochtone, le mois des fiertés, au mois de juin. La fête nationale française, le 14 juillet. Festival Compazouk Efkazo, au mois de juillet août. Le mois du créole avec Kepka, en octobre. Le festival Ciné Franco, grand public en novembre. Les nouveautés littéraires, avec les éditions Prise de Parole. Les nouvelles des Français de l'étranger, avec l'association Français du Monde, Toronto. Popourri Show, 37 ans déjà. Chaque dimanche, de 11h à 13h, sur www.cut.fm, en partenariat avec Radio France Internationale et France 24. Concerts, spectacles, des cartes cadeaux, des places VIP, des émissions spéciales, des conférences du CREFO, les visites guidées de la Société d'Histoire de Toronto et les bons plans de nos partenaires de la région et du monde francophone. Abonnez-vous immédiatement à nos bulletins d'information pour ne rien manquer. Devenez membre, chroniqueur ou partenaire de la seule émission en langue française sur la Radio Campus de l'Université de Toronto. Vous avez une thématique? à nous proposer, une nouvelle à nous partager, alors faites vite, écrivez-nous à popourri@cut.fm ou visitez tout simplement notre site web popourrishow.com. 2024, c'est l'année des voix, des sans-voix sur CUT 89,5 FM. Popourri Show, toute la diversité du monde sur votre fréquence.
À l'initiative du gouvernement du Québec, le Centre de la francophonie des Amériques a été fondé pour stimuler la création de liens entre les communautés francophones des Amériques et agir comme un moteur de développement par sa contribution à l'émergence de projets porteurs, pluriels et inclusifs. Grâce à des initiatives exclusives et gratuites, comme la Bibliothèque des Amériques, ou des projets phares, comme le Forum des jeunes ambassadeurs, le Parlement francophone des jeunes ou l'Université d'été, le Centre joue son rôle de leader en s'engageant à soutenir et mettre en mouvement une francophonie porteuse d'avenir. En plus d'agir sur le terrain, le Centre s'investit chaque jour un peu plus dans les espaces virtuels afin de multiplier les initiatives, les concours ou les occasions d'échange entre les 33 millions de francophones et de francophiles des Amériques. Depuis plus de 10 ans, le Centre travaille ainsi à la mise en œuvre d'une francophonie plurielle, solidaire et inclusive, riche de ses différences, engagée et innovante. Une francophonie faite pour les 33 millions d'individus qui la supportent dans plus de 50 pays et territoires dans les Amériques.
Oh, Alain Mabankou, oui. On a déjà abordé un tout petit peu le principe même de ce que vous essayez, avec pas mal de succès, de faire bouger comme ligne aujourd'hui. Pour cela, il faut peut-être revenir aussi un tout petit peu sur votre vie, parce que je ne crois pas que, sans parler de la biographie d'un écrivain, on comprenne vraiment ses intentions. Mm-hmm. Quand on rappelle que vous êtes né à Pointe-Noire, au Congo, que ce Congo, on le retrouve au cœur d'énormément de vos romans, ceux que vous avez écrits en Afrique, ceux que vous avez écrits à Paris, ceux que vous continuez d'écrire aux États-Unis, là, on comprend un peu mieux qui vous êtes. Quand on dit que vous aviez reçu le prix Renaudot, il y a quelques années, pour Mémoire de Porc-Épic, que vous êtes traduit dans 15 langues, que Petit Piment, votre dernier roman, vient de sortir ces jours-ci en poche, là, on voit un petit peu l'agitateur se mettre en place chez vous. Il y a tout juste un an, vous entriez au Collège de France comme professeur invité. Vous aviez délivré, je m'en souviens, une leçon magistrale sur la littérature. Et puis vous avez organisé, toujours au Collège de France, un grand colloque historique qui a rassemblé les chercheurs, les écrivains, les philosophes, les poètes, bref, tous les penseurs de l'Afrique actuelle sur ce thème « Penser et écrire l'Afrique ». Aujourd'hui, voici maintenant les actes donc de ce colloque. Ce sont 19 interventions passionnantes, décapantes, et qui permettent de comprendre notamment nos rapports, non seulement à l'Afrique, mais au monde, à l'écriture, peut-être aussi à la francophonie, et certainement au vieux démon de la colonisation et du racisme. Est-ce que l'Afrique noire est encore perçue comme, parfois vous le dites, le territoire des guerres ethniques, des dictatures, des républiques bananières, et est-ce que la littérature peut changer cette vision de l'Afrique?
Je pense que la littérature a toujours eu un effet catalyseur. Et quand aujourd'hui on regarde le paysage du continent africain, les dictatures sont là, à Brazzaville, au Gabon, dans plusieurs des pays, je parle de celles qui sont proches du Congo-Brazzaville. Si on écrit, c'est aussi pour dire que pendant longtemps, nous avions pensé que l'ennemi principal des Africains était le colonisateur ou l'ancien colonisateur. Mais on a vu aussi qu'il y a une certaine connivence entre l'ancien colonisateur et les dictateurs qui sont sur place. Il faut désormais repenser cette Afrique, comment l'écrire, comment dévoiler en quelque sorte sur le plan scientifique tous ces mécanismes qui servent à peut-être à bâillonner l'expression des peuples africains.
Alors comment le faire, Alain Mabankou, sans être taxé d'afrocentrisme? Parce qu'on a l'impression que c'est ça d'ailleurs votre principale préoccupation, sortir d'un monde afrocentré tout en remettant l'Afrique à la première place.
Je pense que dans ce colloque, dans ce livre, on sent d'ailleurs que nous ne sommes pas forcément dans cet afrocentrisme aveugle, puisque la variété de ces chercheurs, quand on voit des grandes chercheuses comme Françoise Vergès, qui nous parle des Afriques océaniques, l'Afrique c'est aussi l'eau. Liquide. On a parlé tout à l'heure dans le livre de Jean-Christophe Ruffin de Madagascar, mais il y a quand même l'eau qui entoure là-bas. On ne parle jamais des Afriques aquatiques. Si on pense à l'aspect économique avec un chercheur comme Célestin Monga, qui pense l'Afrique sur le plan aussi de la famine, ou alors l'un des plus grands intellectuels africains actuels, qui est Achille Mbembe, qui répertorie les principales causes peut-être de notre dérèglement actuel, ou encore si on va du côté de l'Amérique, comment Dominique Thomas essaie de nous expliquer que peut-être que la France a une soif des études africaines. La France veut comprendre ce territoire lointain, mais qui a l'air proche, mais en réalité...
Alors, attendez, vous dites que la France a une soif des études américaines, et en même temps, vous pointez, c'est parfaitement vrai, on ne le fait pas.
Des études africaines.
Africaines, pardon. Ouais. Mais pour quelle raison la France est-elle si en retard sur le plan des études de littérature africaine? C'est vrai que vous, aujourd'hui, Alain Mabankou, vous enseignez, vous avez une chaire à UCLA. Avant, c'était à Ann Arbor, dans le Michigan.
Oui, tout à fait.
Et alors, la chaire à la Sorbonne, elle est pour quand?
Ah non, mais...
Où elles sont aujourd'hui?
J'ai déjà pratiquement une chaire à Los Angeles où je suis titulaire. Je pense que je me sens très bien à l'Université de Californie.
Est-ce qu'il y a un retard en France?
Le retard, il est là. Prenez l'exemple. Quand on nous propose l'histoire de la France, elle est toujours perçue d'un seul côté. On a toujours essayé de soustraire au lieu d'exposer les choses telles qu'elles sont, de sorte que les gens vont pouvoir lire et avoir leur propre idée. Tout à l'heure, on donnait l'exemple de Louis-Gustave Binger, que j'emprunte à l'écrivain Gauze, qui a écrit le texte le plus parlé, le plus rappé à l'intérieur de ce livre. Quand En 2015, on a célébré le centenaire de Roland Barthes dans ce pays, qui avait évoqué le fait que le grand-père, justement, de Roland Barthes avait été, de ce côté des explorateurs, avait donné la France à la Côte d'Ivoire, et en même temps, il a assuré une certaine autorité morale vis-à-vis de ce Barthes qui allait être l'un des plus grands intellectuels français. On ne l'a jamais dit, on a eu tous les livres, les grandes biographies, même mes amis comme les Laurent Binet ont eu du succès sur Roland Barthes, mais personne n'a évoqué cette période. C'est pour cela que je dis que l'histoire de l'Afrique s'écrit justement sur ce qui ne se dit pas. Et dans ce livre, c'est justement ces petites failles qui ne sont pas à l'intérieur de l'histoire de France que nous essayons de mettre en valeur avec les 19 chercheurs qui sont réunis là.
Vous la connaissez bien, cette Afrique, Jean-Christophe Ruffin. Vous avez écrit sur l'Érythrée, il y a eu l'Abyssin, il y a eu les causes perdues. Je disais tout à l'heure, vous aviez été ambassadeur de France au Sénégal.
Oui, mais moi, je ne me permettrai jamais, si vous voulez, d'écrire au nom de l'Afrique ou au nom des Africains. J'écris sur des choses qui sont la rencontre. Je suis français, j'ai une autre position, si je peux dire, historique. Et je parle toujours de la rencontre de l'Europe et de l'Afrique. C'était ça. Mais sur les études africaines, je voudrais juste compléter ce que disait Alain. Je pense qu'en effet, il y a un retard en ce qui concerne la littérature. En revanche, sur les études de politologiques, si vous voulez, de sciences politiques sur l'Afrique, il y a des chercheurs de très grande valeur ici en France. Et je pense que par rapport aux États-Unis, on a quand même une culture de la connaissance, de la compréhension de l'Afrique qui est assez grande, mais sans doute un retard dans le domaine de la littérature.
Et alors pourquoi on n'enseigne pas, pourquoi on ne trouve pas par exemple les grands écrivains africains dans des éditions courantes, pourquoi on n'enseigne pas à l'université cette formidable littérature?
Mais je pense qu'il faut aussi expliquer ce retard par le fait que ce qu'on s'est toujours dit ici, c'est que il y a des sujets qui sont en quelque sorte tabous en France, c'est-à-dire que on n'enseigne pas la colonisation telle qu'elle a été faite, telle qu'elle a été opérée. On a toujours tendance à choisir un versant de cette colonisation. Et donc, du coup, installer les études africaines, c'est reposer la question de la colonisation de la France, c'est choisir entre ceux qui sont du côté du sanglot de l'homme blanc, comme dirait Pascal Bruckner, et ceux qui sont du côté de l'accusation presque fondamentale.
Mais d'ailleurs, dans l'article de Célestin Manga, c'est très intéressant, il dit il y a deux lectures de l'Afrique. Une un peu, disons, de gauche, qui est une lecture structuraliste, qui consiste à dire l'Afrique est victime de tout ce qui lui est arrivé. Puis une lecture plus culturelle, qui consiste à dire l'Afrique est responsable de ses propres malheurs avec ses dictateurs, etc. Et il dit finalement, aucune de ces deux visions n'est juste.
Donc ces visions s'affrontent, mais je pense que ça vient petit à petit. C'était le sens même de mon passage au Collège de France. Je n'étais pas forcé de faire les études africaines au Collège de France. Le Collège de France ne m'avait pas imposé une feuille de route en disant « Écoutez, vous êtes africain, ça tombe bien. Allez, on va rattraper le fait que depuis le XVIe siècle, on n'a pas eu des études africaines au Collège de France, en tout cas de la littérature. » Mais j'ai voulu le faire parce que je pensais que c'était important. Le peuple, le public français est prêt, mais j'ai l'impression que ce sont les institutions françaises qui ont un retard.
Et l'intelligentsia française. Parce que vous mâchez pas vos mots, vous êtes assez dur avec eux. Oui. C'est qui l'intelligentsia française dont vous dénoncez l'hypocrisie, Alain Mabankou?
Écoutez, quand vous regardez les programmes universitaires, les programmes scolaires, c'est toujours un certain enseignement qui va dans le sens de la gloriole. Il n'y a pas de honte à ressasser ce qu'on a fait au cours de l'histoire. Tout au contraire, on grandit, on permet de ne plus faire. Si vous interdisez à un enfant chaque fois de rentrer dans une pièce, son obsession sera toujours celle de défoncer cette porte. Si vous expliquez que voilà, nous avons fait ceci, l'histoire est ceci, l'histoire est cela, là nous avons une certaine histoire, mais on présente toujours les Africains, par exemple, sous l'aspect des gêneurs. Mais quand on avait besoin d'eux pour aller faire des guerres, pour libérer la France, c'est eux qui prenaient les balles devant. Donc il faut aussi, non pas exhiber une certaine ingratitude, mais il faut aussi comprendre que parfois on en a marre de se retrouver dans une situation où on est obligé de s'excuser de venir en France, alors même que quand la France était occupée, nous avons ouvert les portes, Brazzaville étant bien la capitale de la France libre.
On oublie un peu trop souvent.
Voilà, on préfère parler de l'appel du 18 juin, c'est Londres, c'est à côté. Mais Brazzaville, c'est l'histoire de France.
Quand vous écrivez, page 122, ceci qui est admirable, « Je ne suis pas un nègre de salon. Je ne suis pas un nègre qui porte les valises de l'Occident. Je ne suis pas la gomme chargée d'effacer les stigmates du passé. Je ne suis pas un chirurgien esthétique spécialisé dans le lifting de l'histoire. Parce que je sais qu'un homme sans histoire est un zèbre sans zébrure. »
Ah, voilà.
Quand vous écrivez ça, on sait qui vous n'êtes pas. Qui êtes-vous ?
Mais justement, il faut qu'on cherche à se définir ensemble. On a toujours cherché. Nous sommes définis par des catégories qui sont déjà préétablies. Moi, j'ai besoin de savoir qui est Jean-Christophe Ruffin. Pour le savoir, je rentre dans sa littérature, je lis ce qu'il fait, je lis son histoire. Comment expliquez-vous que ce sont les Africains qui ont étudié tous les rois de France pendant que le Français moyen qui voulait apprendre l'histoire d'Afrique, on lui dit ouais, Chaka Zulu, c'est pas un vrai, je sais pas, l'Égypte ancienne n'était pas nègre. Il y a des éléments historiques qui donnent l'impression à certains intellectuels que ça ne relève pas de l'histoire, c'est de l'épiphénomène, c'est des civilisations, de la barbarie. Il faut qu'on apprenne des textes, par exemple, de Cheikh Anta Diop, qui a écrit « Nation nègre » et « Culture ». Il faut qu'on apprenne toute cette histoire du peuple, des peuples africains, qui est en réalité l'histoire de France. Quand j'enseignais la littérature...
L'histoire de l'Afrique, c'est l'histoire de France. C'est ce que dit à un moment l'une des contributrices, « Penser l'Afrique, en fait, voilà. C'est penser le monde ».
Voilà, « Penser l'Afrique », c'est Séverine Codio-Granvaux qui dit « Penser l'Afrique, c'est penser le monde ». Et moi, je renverse. « Penser le monde, c'est penser aussi l'Afrique ». C'est bien beau de nous donner les compliments dans le style... l'Afrique, le continent d'origine, le berceau de l'humanité. Les compliments ne suffisent pas. Le meilleur compliment, c'est de reconnaître l'histoire comme elle a été faite. Et si tant est que tout le monde est au courant de cette histoire, on se rendra finalement compte que nos destins sont liés et que la culture de la division qu'on nous oppose face au rêve de la culture de la multiplication ou de l'addition... est plutôt suicidaire.
Non, mais c'est Benioffsky qui parle. C'est votre personnage qui s'exprime, en réalité, dans ce que vient de dire Alain Mabanson.
Avec, malheureusement, entre les deux, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu Et donc, effectivement...
Voilà, l'histoire donc sert à pas mal de choses, et notamment à essayer de comprendre aujourd'hui comment on peut continuer à faire nos tours du monde. Penser et écrire l'Afrique aujourd'hui avec énormément d'intellectuels. Vous en avez cité quelques-uns. Je rajoute François Durper qui donne un très beau texte.
François Durper,
Pascal Blanchard également.
Rokhaya Diallo.
Absolument, Rokhaya Diallo. Dany Laferrière notamment aussi. Et puis Abdourahman Ouaberi, qui vous a donné deux très beaux textes.
Qui a écrit Les enfants de la post-colonie.
Écoutez la planète chanter.
Rappelle à ton souvenir.
Ay, maman, voilà le voyage.
Adrabenda cousa, dingue-don.
Non,
écoutez la planète chanter.
Rire aux éclats, les rendez-vous de la francophonie. Du 1er au 31 mars, découvrez les contenus interactifs, éducatifs et amusants pour vous envoler vers l'espace francophone. Célébrés pour une 26e édition, les rendez-vous de la francophonie sont de retour afin de promouvoir la culture francophone partout au Canada. Évoquant l'expression bien connue « rire aux éclats », le thème est un clin d'œil à la tournée d'humour des rendez-vous de la francophonie. Il promet une édition qui sera à la fois amusante, débordante de belles découvertes. Tout au long du mois de mars, la francophonie, partout au Canada, s'éclatera dans l'ambiance festive des rendez-vous de la francophonie. Et cette année, deux porte-parole engagés à la promotion de cette 26e édition. Micheline Marchildon, humoriste, comédienne et animatrice. Elle est une franco-manitobaine de Saint-Boniface. Depuis Hollywood, en passant par Toronto et Montréal, elle mène une longue et fructueuse carrière. Elle compte une dizaine de saisons de télé pour un total de plus de 300 épisodes. L'autre porte-parole qui n'a pas besoin de présentation, l'artiste hip-hop franco-ontarien, le Feu Franco, qu'on connaît très bien sur cette antenne. Il propose un son rempli de hautes vibrations, marié à des textes chargés d'émotions. Il décrit son style comme étant de la pop urbaine multicolore. Né à Paris, le Flo Franco est d'origine haïtienne et a grandi dans la région d'Ottawa-Gatineau. Il désire apporter une perspective multidimensionnelle à ce qui peut parfois être sombre. Sa musique en français transcende et captive de multiples auditoires anglophones comme francophones, jeunes et moins jeunes. Flo croit fermement que la variété est l'ingrédient de la vie. Ainsi, l'ajout de couleurs et de nuances à ses propos fournit simplement à son public une plus grande palette de sons et d'émotions. En 2019, il lance son premier album « Force inhérente ». Depuis, il monte sur scène d'un bout à l'autre du Canada et même aux États-Unis. Eh oui, c'est en janvier 2022 que le Flo Franco revient en force en faisant paraître 5 nouveaux titres, dont 4 accompagnés d'un vidéoclip. Je vous rappelle qu'il est aussi très engagé dans des mouvements politiques antiracistes partout en Ontario. Francophone, bien sûr. Vous retrouverez tous les liens du rendez-vous de la francophonie sur rvf.ca ou tout simplement popourishow.com. Rire aux éclats, les rendez-vous de la francophonie du 1er au 31 mars partout au Canada et sur CUT 89,5 FM, la radio qui vous mène jusqu'au bout du monde. Et voici un des titres coup de cœur de Flo Franco sur CUT FM.
Depuis que t'es rentré dans ma vie, c'est comme si j'ai aucun souci. On dirait que le temps passe beaucoup plus rapidement et que oui, la chance me sourit. Tu m'inspires confiance et la vie de rêve. En ta présence, mes esprits s'élèvent. Et au goût de tes lèvres, fini mes troubles s'achèvent. C'est tranquillité en toi, je l'ai trouvé. Stabilité, merci, je l'ai retrouvé. Ta philosophie, comment tu résonnes. Je ne peux qu'admirer ta personne. Tes réflexions, ton rire, ton regard, ton sourire. Yeah, je ne vois que toi, c'est ta classe qui m'attire. Ton cœur, ton corps, ton âme, ta douceur, ta fureur, ton charme. Simplement dit, je peux plus me passer de ton énergie. Ton cœur, ton corps, ton âme, ta douceur, ta fureur, ton charme. Simplement dit, je peux plus me passer de ton énergie. Jour comme la nuit, je peux plus me passer de ton énergie.
Okay, check. Ton énergie m'appelle, elle m'attire en elle, c'est un carrousel, elle. Je veux pas prendre un elle, non. Couleur caramel, elle coûte comme la caramel. Son charme sur d'elle a mis mon amour en sourdine. Tout simplement dit, j'adore comment tu te dandines. Elle m'attire, elle m'attire. Elle dans la mire, dans la mire.
Ton cœur, ton corps, ton âme, ta douceur, ta fureur, ton charme. Simplement dit, je peux plus me passer de ton énergie. Ton cœur, ton corps, ton âme, ta douceur, ta fureur, ton charme. Simplement dit, je peux plus me passer de ton énergie.
Ta voix, ton toucher, jour comme la nuit, je peux plus me passer de ton énergie.
Ton intellectuel,
ton loco naturel,
toujours rempli de zèle.
Voilà ce qui m'appelle.
Ton intellectuel,
ton loco naturel,
toujours rempli de zèle.
Voilà ce qui m'appelle.
Ton cœur, ton corps, ton âme, ta douceur, ta fureur, ton charme. Simplement dit, je peux plus me passer de
ton charme. Simplement dit, je peux plus me passer de ton énergie.
Ta voix, ton toucher, jure comme la nuit. Je peux plus me passer de ton énergie.
C'est une langue belle, avec des mots super. Il porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des airs, le fromage de chèvre et le pain de froment. Et du Mont Saint-Michel jusqu'à la contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent se frit dans une lame et qu'il en a gardé toutes les harmonies. Dans cette langue belle, aux couleurs de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots, c'est d'abord en parlant que la fête commence. Et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières. Elles répondent aux méandres, au vent dans les roseaux, parfois même aux torrents qui charrient du tonnerre, polissant les pierres sur le bord des ruisseaux. C'est une langue belle à l'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans un étau, mais pourtant si fécond, enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan. Elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique, elle a quitté son nid pour un autre terroir, et comme une hirondelle au printemps des musiques, elle revient nous chanter ses peines et ses espoirs, nous dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait face au vent qui souffle de partout, pour imposer ses mots jusque dans les collèges, et qu'on y parle encore la langue de chez nous. C'est une langue belle à qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesses infinies, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une rame et qu'il a composé toute une symphonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. C'est une langue belle, avec des mots super. Il porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des airs, le fromage de chèvre et le pain de froment. Et du Mont Saint-Michel jusqu'à la contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent se frit dans une rame et qu'il en a gardé toutes les harmonies. Dans cette langue belle, aux couleurs de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots, c'est d'abord en parlant que la fête commence. Et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières. Elles répondent aux méandres, au vent dans les roseaux, parfois même au torrent qui charrie du tonnerre, en polissant les pierres sur le bord des ruisseaux. C'est une langue belle à l'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans un étau, mais pourtant si féconde, enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan. Elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique. Elle a quitté son nid pour un autre terroir. Et comme une hirondelle au printemps des musiques, elle revient nous chanter ses peines et ses espoirs. Nous dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait face au vent qui souffle de partout pour imposer ses mots jusque dans les collèges. Et qu'on y parle encore la langue de chez nous. C'est une langue belle à qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre. Et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Et nous lutte dans les larmes jusqu'à la contre-escarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays. On dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. Et nous lutte dans les larmes jusqu'à la contre-escarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays. On dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Potpourri Show et Prise de Parole.ca nous donnent envie de déguster des histoires, dévorer des pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur potpourrishow.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur prisedeparole.ca.
Créée en 1970 à Niamey au Niger, l'Organisation internationale de la francophonie compte 57 États et gouvernements membres et 23 États observateurs. Elle est présente sur tous les continents du globe et rassemble les francophones du monde entier, faisant de la langue française un lien. Un lien de paix par ses actions de médiation entre les gouvernements, de concertation diplomatique aux Nations Unies, et d'enracinement de la démocratie dans les pays francophones. Un lien de solidarité entre les peuples, qui favorise le développement économique des pays qui en ont le plus besoin, fournit des formations, notamment aux technologies numériques, et participe à l'amélioration de la qualité de l'éducation dans les pays francophones. Un lien qui harmonise développement économique et intérêts environnementaux, grâce à l'Institut de la Francophonie pour le développement durable, qui multiplie les actions d'information et de stratégie de maîtrise des ressources naturelles et de l'énergie. Un lien de partage des cultures et des diversités, grâce à ses grands rassemblements sportifs, ses salons et rencontres littéraires, ses festivals de cinéma, de musique et ses fêtes populaires à travers le monde. Un lien d'avenir grâce à l'engagement confirmé par la secrétaire générale de la francophonie, Michaël Jean, envers la jeunesse, qui tient une place importante dans les actions de l'OIF et envers la défense des droits des femmes. L'OIF,
réunit les peuples autour de la promotion de la langue française et fait de leur diversité une force au service de la paix, de la solidarité et de l'avenir.
On a cherché un peu à décentraliser la CFAS. Donc, c'est ainsi qu'une série de sections, là, se sont créées.
Surtout pour des chercheurs qui, comme moi, travaillons en français en Alberta, où c'est peut-être pas si naturel de le faire. On a besoin d'endroits comme ça, où là, vraiment, c'est célébrer la recherche en français. Ça donne une légitimité, ça donne une crédibilité.
Ça nous a permis, quand même, de mettre le lot qu'on n'était pas juste un petit groupe de chercheurs qui voulaient faire des choses en français, mais on pouvait s'affilier à une entité respectable, hein, qui était connue, qui avait de l'histoire.
Dans notre section, c'est la culture de la recherche, c'est la promotion de la recherche. On donne un espace.
Les chercheurs qui œuvrent en francophonie minoritaire le font souvent en isolement. Donc, le but premier avant toute forme d'activité, c'est de briser l'isolement.
On veut rejoindre autant les arts, les sciences humaines sociales, l'éducation et aussi les sciences, biologie, médecine, mathématiques.
L'ACFAS, c'était justement l'occasion pour moi de sortir de la santé et de reconnaître qu'il y a des chercheurs dans d'autres disciplines.
C'est le principal lieu de sociabilité savante francophone au Manitoba, l'ACFAS.
On a eu des conférences en astrophysique, sur le soleil. On a eu des conférences sur l'utilisation des plasmas, enfin en physique, on a eu des conférences en nutrition.
Le premier vendredi de chaque mois d'avril, on a la journée phare, la journée forte, qui est la journée des sciences et savoirs. Et au cours de cette journée, il y a des communications libres que peuvent faire à la fois les étudiants et étudiantes, mais aussi des collègues.
La journée du savoir, c'est l'occasion pour les étudiants de faire une première expérience de la communication scientifique.
L'événement de l'ACFAS général en miniature, en un jour.
Et donc, c'est ouvert à la communauté. Donc, on annonce toutes nos conférences et toutes nos activités à la communauté en entier.
Quand je pense à ma section, je pense à la relève. Je pense au fait qu'il y a des étudiants qui ont pu présenter leur recherche en français pour une première fois. Et quand je pense à ça, je pense à eux qui ont la chance de faire vivre leur langue et qui ont été dans les écoles d'immersion, les écoles francophones, mais je pense à leurs familles qui sont venues les voir.
L'ACFAS, ça peut être un tremplin pour ces étudiants-là qui ont ensuite fait des maîtrises, doctorats.
Faire de la recherche en français ou juste faire vivre le français dans une province comme l'Alberta, c'est important. C'est important pour la relève, c'est important pour les nouveaux arrivants qui souhaitent s'intégrer à la francophonie. Donc, et c'est un geste politique. Parce que c'est facile de passer à l'anglais, surtout dans le domaine des sciences comme la biologie, c'est un impératif. Mais c'est possible également de montrer qu'il y a une vie en français.
On peut ensemble réfléchir en français chez nos activités.
La francophonie, elle est forte, elle est vivante, et c'est ce qu'on veut montrer avec la France.
Bonjour tout le monde, ici Pierre-Olivier Zappa, chef d'antenne à TVA Nouvelles et à LCN. Je suis également cette année porte-parole de la dictée PGL de la francophonie. Et je suis à HEC Montréal dans ce magnifique bâtiment en plein cœur du centre-ville. C'est ici que va avoir lieu la grande finale de la dictée PGL de la francophonie le 22 mars prochain. Vous vous dites c'est dans longtemps, mais d'ici là, faut se préparer. Faut mobiliser ses collègues au travail, inscrire son entreprise à la dictée, pour ensuite y participer. Et c'est une occasion formidable de mobilisation. C'est aussi l'occasion de valoriser notre belle langue, le français. Alors, c'est un rendez-vous. Inscrivez-vous à la dictée PGL de la francophonie. Et d'ici là, on aura l'occasion d'en rediscuter. À bientôt.
À l'occasion du mois de la francophonie, Popourri Show, CUTFM, en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie, les rendez-vous de la francophonie, le Festival Ciné Franco Jeunesse, le Centre de la francophonie des Amériques, présente Rire aux éclats. Un thème qui fait un clin d'œil à la tournée d'humour des rendez-vous de la francophonie du 1er au 31 mars. tout au long du mois de mars, CUTFM poursuit sa tradition avec des émissions spéciales afin de célébrer les valeurs communes de la francophonie que sont la solidarité, la diversité culturelle et la démocratie. Car s'ouvrir sur la francophonie, c'est avant tout s'ouvrir sur le monde. Restez à l'affût de notre programmation et les activités de nos partenaires en cliquant sur popourishow.com.
Les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio Télévision Suisse,
Radio Canada.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone. Après notre émission spéciale Beyrouth la semaine dernière, que vous pouvez retrouver en podcast sur toutes les plateformes, aujourd'hui on vous parle évidemment du prix Goncourt et d'un livre graphique incroyable qui nous a éblouis. Voici le sommaire de cette émission.
La librairie francophone, Emmanuel Kérade.
C'est un gros livre compact et très beau qui se fait passer pour une BD. Le Suisse Martin Panchaud casse les conventions avec un récit magnifique, conçu comme un roman illustré, avec des influences du dessin industriel. Un livre unique à découvrir absolument. Nous sommes en plateau avec Chloé Corman qui raconte la terrible histoire des enfants juifs déportés. Un livre qui fait une petite polémique en ce moment. Nous laisserons l'auteur s'exprimer en toute liberté et nous vous raconterons cette histoire bouleversante. C'est désormais un habitué de la librairie francophone, le cinéaste et auteur Patrice Lecomte nous surprend avec un beau livre autour de Doineau et des vélos. Nous allons donc parler vélo ensemble. Et puis vous entendrez la star mondiale de la musique africaine, Tikenja Fakoli, sort un nouvel album avec des textes toujours aussi militants.
Tu es ma petite bombe à moi, tu exploses comme Hiroshima, tu es mon rêve et mon cauchemar, tu me hantes comme Hiroshima. Tu es ma petite bombe à moi, tu exploses comme Hiroshima, tu es mon rêve et mon cauchemar, tu me hantes comme Hiroshima. Je me laisse porter par tous tes sons qui dansent et j'en oublie les conséquences. Énorme, un cri en dans le cœur, un peu tendresse, que en deux chaises, je ne comprends pas. Tu es ma petite bombe à moi, tu exploses comme Hiroshima, tu es mon rêve et mon cauchemar, tu me hantes comme Hiroshima. Tu es ma petite bombe à moi, tu exploses comme Hiroshima, tu es mon rêve et mon cauchemar.
Essayer de mélanger les mauvaises herbes. Les blessures sont des marques qui prouvent qu'on s'est toujours démené. Qu'on avait tout fait pour ne plus jamais être blessé. Alors qu'ils nous laissent nous détruire au nom de nos désirs. Alors qu'ils nous laissent choisir de couler nos navires. Même si ça nous fait souffrir, on finira martyr. Si l'amour s'intensifie, on paie. Petite bombe à moi, tu exploses comme Hiroshima, tu es mon rêve et mon cauchemar, tu me hantes comme Hiroshima, tu es ma petite bombe à moi, tu exploses comme Hiroshima, tu es mon rêve et mon cauchemar, tu me hantes comme Hiroshima.
C'était Lou and the Yakuza avec Hiroshima dans la librairie francophone.
La BD, la BD de la librairie francophone.
Et bonjour Martin Panchaud.
Bonjour Emmanuel.
Martin Panchaud. Je vais vous dire une chose que je n'ai pas encore dite dans cette émission. En 17 ans de librairie francophone, je n'ai jamais lu un livre pareil. Jamais.
Je vais remercier notre équipe d'ailleurs en Suisse et notamment Nicolas Julliard qui a attiré notre attention sur votre ouvrage. C'est un livre dessiné incroyable, une pépite absolue, un ovni hybride entre la BD, le roman, l'essai scientifique, hein, vous frôlez, le dessin industriel et la magie d'un récit captivant, émouvant. Le format, la qualité de l'édition, le prix, tout est bien. C'est un petit chef-d'œuvre. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée-là de déconstruire la bande dessinée ?
Bah déjà, merci beaucoup pour tout ça. Moi, je suis ravi d'entendre tous ces mots. Alors, en fait, ce qui m'a donné envie, en fait, ce livre est un peu un accident parce que, à la base, moi, le texte, c'est pas mon fort. Et je suis arrivé un peu par accident dans la bande dessinée. Plus tard, j'ai fait du graphisme. Et sorti de là, je me suis dit, allons avec l'attitude du graphisme faire une bande dessinée, raconter une histoire. Ce fameux « less is more », c'est-à-dire on enlève tout le maximum et on garde l'essentiel. Et j'essaie, à travers une sorte de laboratoire, au sorti des études, en fait, des tentatives comme ça de créer quelque chose de nouveau avec la bande dessinée.
Avec des schémas, donc, c'est ça? Parce que vos personnages sont symbolisés par des points, des ronds, en fait. Chacun a sa couleur. On les voit évoluer en vue du dessus. On est comme ça au-dessus de votre monde, comme un drone. Hein. On pourrait être dans un drone. Et les seuls dessins à plat sont ceux qui expliquent un mécanisme, une invention ou un phénomène scientifique, car il y a une enquête autour d'un jeune ado de 14 ans. Racontez-nous le début de l'histoire.
Oui, alors c'est l'histoire de Simon Hope qui a 14 ans et en fait, à travers quelques petites mésaventures, il va faire un pari qui va s'avérer gagnant.
Au cours hippique, oui.
Voilà, une course hippique conseillée par une voyante. Et au moment où il gagne cette somme folle, il se retrouve avec un ticket gagnant qui vaut plusieurs millions de pounds. Malheureusement, il n'est pas majeur et il lui faut ses parents pour contresigner le ticket. Et l'histoire débute un peu comme ça.
Voilà, sa mère est dans le coma. Elle a été tabassée chez lui. Le père est en fuite. On ne sait pas où il est. On ne sait pas si c'est lui. On ne sait rien. Et ce petit garçon va se retrouver avec son billet de course hippique, 16 millions de livres sterling. Et on s'attache à ce gamin, alors qu'il n'est jamais dessiné. Vous nous laissez comme ça l'imaginaire, comme quand on lit un roman en fait.
Tout à fait. Étant donné que je suis un grand dyslexique, pour moi les mots, la lecture des mots était toujours un problème. Et à travers mes études de graphisme, j'ai appris que le dessin des mots était déjà du dessin. Les lettres mises en séquence formaient des mots, des phrases, des paragraphes. Et en fait, la bande dessinée joue avec cette idée de séquence, juxtaposer des images pour raconter une histoire. Et tout ça, en fait, c'était une vision que j'ai eue il y a près de 10 ans maintenant. Ça fait 10 ans que je travaille que j'ai commencé les premières lignes de ce livre. Et voilà, que j'ai mené à bien.
Alors, quand je parle de dessin industriel, vous êtes d'accord ou?
Complètement.
Oui, c'est ça. Hein.
Je m'inspire de vraiment tout ce qui est en fait de ces codes, que ce soit le plan d'un parc,
oui, complètement,
ou d'un schéma de montage d'un meuble.
On a l'impression que vous avez dessiné au Rotring même.
Oui, parce que tout à fait.
Un stylo pour les dessinateurs de ceux qui font du dessin industriel sauront de quoi je parle.
Voilà, tout est fait justement avec un logiciel qu'on utilise pour dessiner des plans d'architectes, des choses comme ça.
Ouais.
Justement, la grande difficulté, c'était de passer outre. Quand on ouvre le livre, on se dit oulala, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça va être très très compliqué. Et c'était de rentrer dans une histoire assez rapidement, puis d'avoir une aisance de lecture à travers les dialogues et les images.
Alors c'est bouleversant de voir ce gamin symbolisé par un rond, c'est incroyable, j'aurais jamais cru dire ça un jour. Aller voir sa maman tous les jours, le rond va voir sa maman hein, à l'hôpital, on a la vue du dessus avec le lit de l'hôpital, le rond qui symbolise la maman, les câbles, enfin les tuyaux autour, et puis le petit garçon qu'on imagine du coup, on se fait une image de lui, il va voir sa maman tous les jours, des semaines entières, des mois et des mois, il ne la lâchera jamais.
Oui, il y a plusieurs strates de narration, mais c'est aussi ce lien en fait très très fort avec sa mère qui va le conduire à aller de l'avant, à prendre des décisions, parce qu'au début on comprend quand même que c'est un peu un froussard, trop aimé par sa mère, pas assez par son père, qui a en fait son seul refuge, c'est elle.
Bon, je vais laisser regarder Patrice Lecomte qui m'a fait des signes depuis tout à l'heure et on va laisser la place à nos libraires avec la Suisse et le Canada qui ont lu cet ouvrage. Mike Vienno, vous êtes fan de bande dessinée, alors c'est pas vraiment une BD, hein. Moi je trouve que c'est vraiment beaucoup plus que ça. Qu'en pensez-vous au Canada?
Ah, ce livre est plus qu'un exercice de style, c'est une réussite narrative. Ce n'est pas une simple curiosité graphique, c'est une manière originale de donner à voir, susciter la compréhension et imposer différemment l'émotion. Car il y en a de l'émotion dans ce récit difficile, il y a de l'humour aussi, il y a de l'action, mais surtout on trouve une voix, un trait, une identité dans toutes les couleurs de ces choses.
Exactement. Annick Vermont en Suisse, vous êtes notre spécialiste BD. Alors là, bon, voilà, un livre graphique qui vous a déstabilisé, qui vous a plu, comment ça s'est passé?
Alors, je me suis vraiment attachée à ce pauvre Simon qui a ses aventures déplorables, bien que ce soit un vulgaire rond orangé. J'ai trouvé ça très très fort. Par contre, j'ai trouvé que le scénario tirait un tout petit peu en longueur, mais le parti pris graphique unique, osé, déstabilisant, la narration surprenante, et puis cet humour noir, profondément noir, fait qu'on veut absolument savoir comment l'histoire se termine.
Ouais, c'est vrai que c'est incroyable. Il y a toutes sortes de références au cours de ce livre de 224 pages. Patrice, si vous commencez à la page 1, 2, 3, vous êtes là pendant 3 heures. Ouais, piochez dedans.
Non, je peux pas feuilleter, grappiller, mais je vais vous faucher en fait.
D'accord. Et il y a de la musique aussi dans ce livre. Votre personnage en quête de son père est en voiture avec un ami de sa mère. Ils écoutent la radio et tous les titres qui sont diffusés évoquent l'argent. C'est une réflexion sur l'argent, ce livre aussi, Martin Panchaud.
Oui, complètement. En fait, c'est quelque chose qui était assez en arrière-fond et peu à peu que je le développais, en fait, c'est un thème qui est assez venu au premier plan. On est dans une société où c'est la plus grande religion, on la trouve partout, l'argent. Et pourtant, c'est un objet mythique, on projette beaucoup de choses dessus, on se dit que ça va résoudre tous nos problèmes, et puis une fois qu'on a cette masse d'argent, ben enfin, on se rend compte qu'on a d'autres problèmes.
Et oui, c'est ça, c'est ce qui arrive à ce gamin.
Et c'est ce qui arrive.
Mais vous contrecarrez quand même cette idée que l'argent ne fait pas le bonheur, comme si c'était une formule pour consoler les pauvres. C'est un peu ça.
Exactement, tout à fait. Oui. Je pense que pour que l'argent ne fasse pas le bonheur, il faut déjà avoir beaucoup d'argent, et c'est un peu ce que j'ai voulu véhiculer, et puis aussi de montrer que finalement, on peut résoudre des problèmes autres qu'à travers ce biais qu'est l'argent.
Cette musique sur l'argent dans ce livre La couleur des choses de Martin Panchaud aux éditions Ça et là. L'argent au cœur de cette histoire pleine d'humanité. Et puis il y a en filigrane une histoire de baleine. On comprendra à la fin, je ne vais pas raconter donc, mais vous décrivez avec beaucoup de précision scientifique la baleine B52. C'est une baleine bleue, c'est ça?
C'est une baleine bleue, exactement. Alors elle arrive un peu par hasard, on se demande, c'est comme si on ouvrait un documentaire sur les baleines bleues, tout d'un coup on a plein d'informations dessus. En fait les baleines me fascinent depuis très longtemps, je trouve que c'est un animal extraordinaire. On est fasciné par les dinosaures, mais en fait, l'animal le plus fascinant, c'est quand même lui, par sa taille, par sa capacité, par sa dimension, en fait.
Là, c'est le plus lourd animal de la Terre. Hein.
Oui, que
c'est
la Terre n'a jamais porté.
La baleine que vous décrivez.
Exactement, exactement. C'est l'être vivant le plus massif qui a jamais existé sur Terre, en fait, tout simplement, et qui se fait malmener parce qu'on malmène les océans. Et voilà. Et ce que j'ai cherché à faire, justement, c'est à travers cette narration, c'est aussi de surprendre un peu le lecteur, de faire un pas de côté. De croire qu'on va raconter cette histoire-là, on passe sur une baleine bleue.
Une réflexion sur la violence aussi, une réflexion sur l'écologie, il y a plein de choses dans ce livre, Martin.
Oui, j'ai mis plein de choses, exactement.
Bon, c'est très difficile à décrire, j'espère qu'on vous a donné envie, parce que c'est absolument génial. On vous laisse sur cette histoire de baleine. Merci Martin, La couleur des choses est parue aux éditions Ça et là. Je sais que Patrice Lecomte et Chloé Corman aussi vont nous piquer les livres qui sont sur la table. Et vous qui nous écoutez, croyez-moi, c'est le livre le plus incroyable que j'ai lu pour cette émission depuis qu'elle existe. Si vous avez 24 euros pour parler du prix en Belgique et en France, foncez chez votre libraire. Merci Martin Panchaud.
Merci beaucoup.
Bravo à vous. Un nouvel épisode ou vous allez continuer ou pas?
Alors en ce moment-là, je suis d'un côté sur un projet de jeu vidéo peut-être, ouais. Et le prochain qui où ce que je travaille.
Mais dans le même style.
Dans le même style. D'accord. Encore plus loin.
Très bien. Merci beaucoup Martin.
Les médias francophones publics.
Radio France, RTBF,
Radio Canada,
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
On change d'univers avec Tikenja Fakoli qui sort en ce début novembre un nouvel album événement. Des textes militants sur l'Afrique qui s'adressent au monde entier. Il était dans la version télé de la librairie francophone la semaine dernière. En voici un extrait.
Quand tu parles un peu, c'est 20 ans. Si tu lèves le poing, c'est 20 ans. Quand tu te poses, c'est 20 ans. Mais quand tu es là-bas, tu manges 20 ans. Si tu suis le président, tu manges 20 ans. Si tu es contre le mouvement, tu peux prendre 20 ans. Malgré le serment, il n'y a pas de chance.
Bonjour Tiken Jafakoli.
Bonjour.
Vous êtes une grande star de la musique, gloire de l'Afrique, écoutée dans le monde entier. L'album précédent parlait d'écologie et avec ce 11e album, vous restez fidèle à vos engagements, votre militantisme aussi. Avec l'assise peut-être d'un artiste qui a mûri, vous êtes devenu une sorte de sage, vous pensez ou...
Oui, effectivement. Oui. Effectivement, quand on a plus de 20 ans de carrière et qu'on a 54 ans, et voilà, évidemment, on réfléchit pas comme on a quand on avait 26 ans.
Ouais.
Voilà, il y a plus de sagesse maintenant, mais le message reste engagé.
Ouais.
Et objectif.
Et vous répétez cette parole militante dans le titre qu'on vient d'écouter. Il y a cette parole militante qui dit que la rébellion peut coûter cher, que certains se gavent sur le dos du peuple, et qu'au final, quelle que soit la place où on est, on en a pour 20 ans à chaque fois.
Oui. Je pense que c'est un titre qui explique tout, hein. Vous savez, c'est un peu général en Afrique.
Ouais.
Quand vous suivez le président, vous pouvez manger 20 ans.
Ouais.
Et puis, quand vous êtes contre le président et son mouvement, vous pouvez aller en prison pour 20 ans.
C'est ça.
Voilà. Et c'est quelque chose qu'on a envie de changer parce que, moi, à un moment, j'ai entendu dans plein de pays, au Bénin, en Côte d'Ivoire, un peu partout, j'ai entendu tel opposant, hein, pour des délits d'opinion et qu'on allait à 20 ans.
Ouais.
Pour moi, c'est exagéré. Donc, c'était important pour moi de chanter.
Alors, votre premier album, Manger Crassi, vous avez bousculé la musique reggae. Avec le 4e France-Afrique, vous dénonciez un système politico-mafieux. Avec Ouvrez les frontières en 2007, sur l'album L'Africain, le message était très clair. Là, cette fois, sur ce nouvel album que j'ai là, en double vinyle, il est question de beaucoup plus d'espoir, Tiken Jafakoli. Il y a le titre Beau Continent, Don't Worry aussi, où ça va aller, et qui est un réquisitoire. Les portes sont ouvertes aujourd'hui. Il suffit de décider.
Ouais, je pense que les portes sont ouvertes. Tout ce qui était caché hier, on sait aujourd'hui, quoi. On sait tout ce que les gens nous cachaient hier, donc grâce aux réseaux sociaux, on sait tout. Donc les portes sont ouvertes, l'espoir est permis. Je pense que si on veut avancer, il y a qu'à se mettre ensemble.
Ouais,
parce que uni, c'est le peuple qui a le pouvoir.
Ouais.
Je pense que le peuple ensemble, dans n'importe quel pays, quand on est ensemble, voilà, on peut faire face aux 100 ou 200 personnes qui nous dirigent dans nos pays. Vous savez, on a des pays de 28 millions d'habitants. Et puis, vous avez 300 personnes qui braquent le pouvoir.
Ouais.
Et donc, moi, je pense que c'est la désunion, le fait que les 28 millions sont, ou bien les 27 millions et quelques sont divisés, qu'on n'arrive pas à faire changer le comportement des 200 personnes qui nous dirigent. Je pense que tout est ouvert aujourd'hui.
Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir. Tu sais qu'il a tout pour réussir. Quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir. Tu sais qu'il a tout pour réussir.
Dans Beau Continent, vous dites quand tu regardes ce beau continent, tu sais qu'il a tout pour réussir. Pourquoi nous dire à nous que l'Afrique est pauvre? Le continent africain n'est pas si pauvre que ça, si on ne le pillait pas, Tiken Jafakoli.
Mais l'Afrique n'est pas pauvre du tout. Par contre, on nous a fait croire que l'Afrique est pauvre. Et donc, si on enlève l'apport de l'Afrique aujourd'hui dans le fonctionnement du monde, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer très très mal.
Ouais.
Voilà, nous sommes convaincus que l'Afrique est l'un des continents les plus riches et personne ne doit aujourd'hui nous faire croire le contraire. Mmh. C'est une réalité. Et je pense que ce qui manque simplement, c'est que la majorité d'entre nous se rendent compte de cette réalité et qu'on se mette ensemble pour mener les combats.
Ouais.
54 pays, on doit pouvoir gagner tous les combats. L'Union européenne, c'est 27 ou 20, 26 ou 27 encore. Et puis les États-Unis, je crois que c'est 50 ou 52 États. Nous sommes 54 pays avec la majorité des matières premières dont les pays développés ont besoin pour continuer leur développement.
Ouais.
Donc logiquement, l'Afrique doit être devant alors que nous sommes derrière. Et c'est ce que je veux faire savoir. Ouais. Et moi, je suis convaincu que c'est le continent de l'avenir.
Alors, que faut-il dire à tous ces jeunes? Vous en parlez aussi dans cet album. La traversée de ces jeunes qui passent d'un continent à l'autre, qu'est-ce qu'il faut leur dire, Tiken Jah?
Ben, il faut leur dire d'abord qu'ils ont le droit de partir, puisque les Occidentaux viennent chez nous quand ils veulent, ou ils veulent faire ce qu'ils veulent,
ouvrir les frontières. Quoi,
et même rester s'ils veulent.
Ouais.
Donc, il faut qu'on donne le droit de venir en Occident aussi.
Ouais.
Mais moi, ce que je veux dire aux jeunes, c'est que l'Afrique, c'est l'avenir, et que c'est là qu'on doit rester, et qu'on ne doit pas tous partir. Donc si nous, en tant que jeunes Africains aujourd'hui, on veut réserver une autre Afrique à nos enfants et à nos petits-enfants, c'est à nous de rester sur place et de mener le combat. Et je pense que c'est possible. Dans l'unité, nous pouvons faire changer le comportement de nos hommes politiques.
Et la religion, Tiken Jafakoli, parce que vous en parlez aussi sur cet album,
ouais.
La religion vous incitait à rester calme. Parce ouais. qu'elle devrait être sereine, la religion. Elle ne devrait jamais tomber dans la folie.
Jamais.
On dirait pourtant que c'est de pire en pire, de ce côté-là.
Oui, je pense que c'est de pire en pire. L'image de la religion est salie, avec tous ces meurtres, voilà, des innocents qui sont tués. Mmh. Moi, je dis que la religion, elle est intime. C'est un choix.
Oui.
Il faut arrêter de faire du mal, quoi. Parce que je pense que Dieu que je connais, Dieu qu'on m'a appris, dont on m'a parlé, moi, je ne pense pas qu'il peut pousser des gens à faire du mal ou bien il peut mettre des gens même dans le feu. Je ne pense pas.
Et pourtant, vous avez la foi, même si c'est une question intime qu'on ne pose pas, mais je vous la pose quand même.
Je suis croyant. Ouais. Je suis d'éducation musulmane, mais très ouvert. Ouais. Je pense que, voilà, pour moi, tous les chemins mènent à Rome, comme on dit. Je pense que toutes les religions parle de Dieu et puis de toute façon personne n'est venu de là-bas pour nous faire un compte rendu, donc faut arrêter de tuer quoi. Donc c'est un peu mon avis là-dessus.
Sur ce nouvel album, il y a le titre Le peuple a le pouvoir, ça résume parfaitement tout ce que vous avez dit et vous chantez ceci. Le peuple ensemble, marchant dans la même direction, ignorant l'ethnicité, loin de la tribalité, au-delà des régions, au-dessus des religions, regardons les mêmes intérêts, oublions l'individualisme, réveillons le patriotisme, il faut créer l'union. C'est ça l'ultime chose en fait.
C'est le peuple qui a le pouvoir. Ouais. Vous savez, les combats sont difficiles dans nos pays parce qu'il y a l'histoire des détenus, il y a des gens qui vont voter pour un président parce qu'il vient de notre région, ou bien il vient de sa région, je veux dire. Mais on ne regarde pas le programme, on ne regarde pas ce que le candidat va faire pour le peuple. Et donc, moi je dis simplement que si on se met au-dessus des ethnies, des religions, etc., et qu'on se met ensemble, et qu'on pose, on exige que nos dirigeants nous répondent, je pense qu'on peut trouver des solutions, quoi. Et le peuple ensemble gagne tous les combats. Voilà, et c'est ce que je veux dire à travers ce morceau.
Le peuple a le pouvoir, hey, il ne le sait pas. Quand tu le sauras, il gagnera tous les combats. Le peuple a le pouvoir, il ne le sait pas. Quand tu le sauras, il gagnera tous les combats.
Et l'entretien intégral de Tiken Jaffa Coli est à retrouver dans la version télé de la librairie francophone en reprise sur les sites de TV5 Monde, de la RTS, de Radio-Canada et de la RTBF. Dans un instant, Chloé Corman, avec son roman finaliste du prix Goncourt, elle raconte la terrible histoire de ses enfants juifs déportés par les monstres nazis. Ce sera après le tout nouveau titre de Zed Youn Pavarotti, révélation francophone de 2020 dont nous avons souvent parlé ici. Vous écoutez la librairie francophone, bon week-end, où que vous soyez dans le monde.
Personne n'aura mon or et blanc V. Je suis le chat noir dans les histoires. Le monde se défile devant mes yeux pleins d'ennui. On s'est vu, je vous connais pas. Bonjour ce matin, tu dégages. Alors posez mes ronds sur la table. Alors bah toc toc, voilà ma tête t'aime. La vie c'est samedi soir, juste donne-moi mon chèque mec. J'suis plus un rat d'en bas. J'veux sauver ma mère, acheter ma putain de house. Acheter ma putain de house, j'veux juste ma putain de house. Acheter ma putain de house, je veux juste ma putain de house. Acheter ma putain de house. Acheter ma putain de house. Acheter ma putain de house.
le tout nouveau titre de Zed Youn Pavarotti, un artiste à suivre avec House.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Bonjour Chloé Corman.
Bonjour Emmanuel Quérel.
Merci d'être avec nous. Vous avez publié Les Presque Sœurs aux éditions du Seuil. C'est un récit plus qu'un roman car tous les personnages ont existé. Il y a beaucoup de détails, beaucoup de documentation aussi. Vous avez enquêté sur deux fratries, les sœurs Kaminski, dont vous avez changé le nom, et les sœurs Corman. Qui sont-elles, ces petites filles?
C'est un groupe de petites filles qui se donnent à elles-mêmes ce nom, Les Presque Sœurs. Et ça, c'est quelque chose qui m'a touchée, ce geste de se baptiser. Dans des circonstances très dures, puisque ces six petites filles, elles se choisissent ce nom au moment où elles sont mises en prison à Montargis, après une rafle en 42.
42, oui.
Et à partir de là, les trois petites Corman, qui sont mes petites cousines, celles qui sont mortes 2 ans avant la naissance de mon père, et les petites Kaminski, partagent le même sort, qui est d'être à la merci des enfermements, des séquestrations d'enfants juifs. D'abord, elle passe par le camp de Beaune-la-Rolande, qui est vraiment un enfer sur terre, parce que juste avant, ça a servi de sas pour les raflés du Veldiv, qui ont disparu, mais on entend encore leurs cris. Et ensuite, et c'est ce que j'ai découvert, moi, en enquêtant, et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce roman, elle passe 2 ans, pour ce qui est de mes cousines, moins pour les autres, dans des foyers à Paris qui servaient à mettre les enfants juifs orphelins par le geste même d'avoir assassiné leurs parents.
C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on demande à l'Union Générale des Israélites de France de créer des foyers. Et on a demandé finalement aux juifs de mettre la population juive et les enfants comme ça sous contrôle. Et le destin de ces fillettes vont se croiser comme ça. Elles iront dans les mêmes camps, dans les mêmes internats. Il faut savoir que à cette sombre époque, il y avait des personnes habilitées à accueillir des enfants juifs qui avaient été séparés de leurs parents. On envoyait les parents dans les camps de concentration et on laissait les enfants finalement presque livrés à eux-mêmes, en tout cas dans des familles de substitution.
Oui, ça, ça a été les tout premiers mois.
Au tout début pour elles, c'est ça, oui.
Avec les codes antisémites qui consistaient à confier les enfants à des familles. Alors, il fallait que ce soit des familles avec un membre juif quand même, pour pas mélanger les genres. Et ensuite, tout simplement, enlever à ces familles. Et il y avait même un nom. L'administration de Vichy a appelé ces enfants les enfants bloqués ou les enfants consignés. Ça voulait dire... Ils sont là, ils sont en vie, on les nourrit à peu près.
Ouais, c'est ça.
Ils sont à peu près scolarisés.
Ils sont en attente.
Mais surtout, leurs noms sont donnés aux préfectures et quand il faut compléter un convoi, on fait
une rafle. C'est ça. Alors, des enfants se retrouvent sans leurs parents dans ces centres, parents qui partent donc dans les camps de concentration, on les arrache de leurs mains. Vous dites, ils pleurent, ils crient, et puis, au bout d'un moment, ils ne parlent plus. Et Chloé Corman, cette organisation est très cynique, très clinique. Vous décrivez cela, vous écrivez cela avec une certaine distance. Il n'y a pas beaucoup d'émotions et de sentiments, mais à part un moment où vous faites parler un enfant, et il dit, mademoiselle, je veux savoir quand on va rejoindre nos parents. Je suis tout seul. J'ai 9 ans et demi. Je veux savoir. À part cette phrase qui tire les larmes, on a l'impression que vous avez choisi une pudeur et une distance.
Eh bien, j'ai cherché aussi un ton et une forme par rapport à pas mal de colère que j'éprouvais dans la découverte de ces faits. Et par respect aussi pour ces petites filles. Je ne voulais pas écrire un réquisitoire, je ne voulais pas surdramatiser, c'est-à-dire ajouter quelque chose à ce qui était déjà aussi horrible. Mais j'ai voulu rendre hommage à l'enfance.
Alors, vous racontez qu'au départ, les Allemands ne voulaient pas convoyer les enfants. Et le gouvernement français ne voulait pas séparer les familles et garder sur son territoire des enfants seuls. Les Allemands, ils font pas ça par humanité, eux. Ils ne voulaient pas s'encombrer d'enfants dans les camps de concentration parce qu'il n'y avait pas assez de place. Et alors un jour, un 13 août, les Allemands autorisent par télégramme la déportation des enfants. Ça se fait en 2 jours. Mais les nazis ne veulent pas des convois
avec des enfants qui sont tout seuls. Il faut qu'ils soient accompagnés par des adultes, même si ce ne sont pas leurs parents, pour l'image, disent-ils. Afin que quand les trains passent, on n'ait pas l'impression qu'on envoie des enfants tout seuls au camp de concentration. Donc on va chercher des personnes qui sont internées, à Drancy notamment, pour accompagner ces enfants qui ne sont pas leurs parents.
C'est on recompose, on recompose une impression de famille à travers ce qu'on peut apercevoir dans les convois. Oui.
C'est horrible.
Donc ça, mais là vous parlez de ce qui s'est passé à l'été 42.
Mmh, oui.
Après ça, le gouvernement de Vichy se rend compte que il faut ralentir la déportation des enfants. Ralentir, mais pas arrêter. Et c'est comme ça que se met en place ce système des foyers d'enfants.
Pourquoi ils veulent ralentir?
Il y a une réaction de l'opinion publique française. Mmh.
On va laisser la parole à nos libraires, Chloé Corman, on discute ensemble, c'est vrai que je l'ai un peu oublié parce que c'est terrible cette histoire, c'est abominable, vous arrivez à décrire vraiment l'abomination ultime. Les libraires, donc avec la France, la Belgique et le Canada, la France, Sophie Todescato.
Oui, c'est un livre qui a beaucoup résonné pour moi et pas seulement parce que son histoire se déroule dans des lieux familiers. Bonne-la-Rolande, c'est pas très loin d'Orléans. D'où qu'on soit, je crois, on comprend où et comment elle a pu avoir lieu. Et effectivement, avec quelle facilité concrète, l'État français a su aider aux rafles et aux déportations. Et puisque ce roman transmet là pour toujours, ce sont les images de ces petites filles, leur silhouette, leur courage d'enfant et leur patience devant les faits absolument bouleversants qui s'incarnent longtemps, qui prennent vie dans la mémoire des lecteurs.
Nathalie Clairin en Belgique, qu'en pensez-vous?
Oui Emmanuel, moi je dirais à Chloé Corman, parmi votre remarquable documentation sur la déportation en France, la douzaine de personnages principaux de votre livre, ils ont une force que je ne suis pas prête d'oublier. L'enfance, bafouée, racontée comme vous le faites, c'est un monument d'humanisme. Vous arrivez à nous faire voir la teneur du quotidien de ces victimes et alors instantanément, elles cessent, et ceci pour toujours, d'être des statistiques. Pour moi, c'est vraiment un très grand livre.
Le Canada, Mike Vienno, vous avez aimé aussi, je crois, le roman de Chloé Corman.
Oui, votre écriture est un véhicule émouvant et respectueux. Il y a une délicatesse dans la fougue de vos mots et on retrouve une vigueur toute tendre dans le récit de ces personnages. Certains diront encore un texte sur le même sujet, d'autres, dont je suis, crieront, oui, un autre récit, mais distinct, une voix unique, un ton singulier, et j'en ressors totalement ému et fasciné de ces presque sœurs.
Voilà, la vie de nos libraires, Chloé Corman. Bon, en tout cas, elles tiennent bon, hein. Les sœurs Corman, les sœurs Kaminski, elles tiennent bon. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'espoir pour elles. Sauf qu'on va pas tout raconter, mais il y a une fratrie qui va s'en sortir, l'autre pas du tout. Et au dernier moment, en plus. C'est ça qui est dramatique.
Oui, alors le convoi dans lequel, par lequel sont assassinées mes petites cousines, c'est le convoi 77. Mmh. C'est le convoi de l'acharnement. Il est parti, ce convoi, plus de 6 semaines après le débarquement. Et oui. Imaginez qu'il a pu partir. Il n'y a jamais eu autant d'enfants. Mmh. C'est insupportable. Mmh. Et avant cela, les petites Kaminski s'évadent. J'ai essayé de faire sentir aussi tout le présent de l'enquête. Qu'est-ce que c'est que le présent? Qu'est-ce que c'est que le temps quand on ne sait pas comment il va se transformer, quand on ne sait pas comment ça va se finir? Parce que sans ça, l'évasion, l'idée de l'évasion n'est pas concevable. Il faut qu'il y ait un peu d'hésitation pour ça, dans un système où il y a des bus avec des rafles régulièrement.
Chloé Corman, votre récit a donc fait polémique ces derniers jours. Les sœurs Kaminski ont dénoncé très récemment le vol de leur histoire, je cite, « comme si elles ne savaient pas que vous alliez publier ce livre alors que vous les avez rencontrées plusieurs fois pour votre enquête. » Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ça?
Moi, je suis très meurtrie par cette histoire. Vous dites « comme si », parce qu'effectivement, mon intention d'écrire un livre était présente au cours de nos rencontres.
Vous leur avez dit?
C'était là tout le temps. Je suis écrivaine, je vous rencontre pour faire un livre. Elles ont eu le texte entre les mains l'hiver dernier. Elles ont eu le livre fini au début de l'été. Mais c'est dur aussi en regard de la relation qui s'est tissée entre nous et de ce qui était... un échange intellectuel et aussi leur voix qui comptait pour donner vie à mes petites cousines. Cette réaction est dure aussi parce que ce livre, je l'ai écrit aussi pour mes petites cousines qui ont été assassinées, qui ne peuvent plus parler. Mmh. Et aussi parce que la forme, on en a parlé, j'ai réfléchi à comment je pouvais raconter des faits qui concernent des milliers d'enfants. J'ai enquêté auprès de beaucoup d'historiens, auprès de beaucoup d'autres témoins, et mon souci est aussi de donner à connaître ce qui s'est passé pendant ces 2 années de séquestration des enfants juifs et a concerné énormément de monde.
Bon, en tout cas, cette polémique, Chloé, a été déclenchée une semaine avant la proclamation du Goncourt. Vous étiez finaliste du Goncourt, c'est un peu étrange, non ?
Bah,
ça vous a coûté le prix Goncourt, vous pensez ?
Je suis incapable de vous répondre. Enfin, la chronologie est sidérante.
Bah, c'est un peu bizarre, ouais, quelques jours avant seulement.
En fait, elle rend douloureuse l'approche d'un moment qui est quand même un moment important pour l'écrivaine que je suis, où j'aurais souhaité attendre sereinement. C'est ça qui est perturbant.
Bon, merci beaucoup Chloé Corman, en tout cas d'être venue dans la librairie francophone. Merci à vous.
Merci à vous.
Les Presque Sœurs est paru aux éditions du Seuil. Vous êtes encore en lice pour le Goncourt des lycéens. Je vous souhaite bonne chance pour
merci.
Ce prix. Merci à vous.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
On termine avec les coups de gueule et les coups de cœur des libraires. En Suisse, Annick Vermeaux, un coup de cœur ou un coup de gueule ?
Un coup de gueule.
Allez-y.
Mais laissez lire les enfants.
Oui, c'est tout.
Non. Bah, avant de pouvoir lire un essai philosophique ou un contrat d'assurance, bah, il faut exercer sa lecture et lire. Donc, si un jeune lecteur trouve un intérêt à un livre, quel qu'il soit, roman, BD, manga, comics, mais laissez-le lire.
Mais oui, c'est toujours
pour autant que ça soit dans sa tranche d'âge, bien sûr.
Bien sûr. En France, Sophie Todescato, un coup de cœur.
Un coup de foudre même.
Un coup de foudre pour
justement.
Les enfants, ou pas ?
Oui.
C'est vrai,
oui,
pour les enfants ?
Mais oui.
Génial.
Un coup de foudre pour l'album de Delphine Perret qui est paru aux éditions des Fourmis Rouges, qui s'appelle Björn, une vie bien remplie, ça se passe dans la forêt. Et Björn, c'est un ours un peu philosophe dont le métabolisme est, disons, assez nonchalant, et qui, à l'aventure, préférera toujours sa vie d'ours, c'est-à-dire se rouler dans la poussière, regarder une feuille tomber, accueillir l'humeur du jour et la paresse. Bref, vraiment, il faudrait qu'on en prenne de la graine, la sagesse même. C'est un merveilleux personnage, un merveilleux livre, doux et drôle, à partir de 5 ans.
Bien, une vie bien remplie, Björn, aux éditions...
Björn.
Les Fourmis Rouges. Merci Sophie. En Belgique, un coup de gueule, Nathalie Clairin.
Oui Emmanuel, moi j'ai un problème dans le rayon vie pratique à la librairie, plus particulièrement les loisirs créatifs. Ce sont ces livres de coloriage qui aident à diminuer le stress. Bon, jusque-là ça va, mais je tombe encore bien sur des images qui sont d'une naïveté tout à fait enfantine, donc ça ne conviendrait pas à des adultes. Mais d'autre part, c'est complètement inadapté à les enfants parce que c'est beaucoup trop difficile à colorier. C'est le cas de Noël Féerique aux éditions Marabout. Je trouve ça assez regrettable.
On balance. Okay. Bon, des livres qui servent à rien en fait, c'est ça. Il y en a plein, hein, des livres qui servent à rien, c'est vrai, hein, dans ces rayons-là. En Belgique, c'est bon. Au Canada, un coup de cœur, Mike Vienno, avec un livre qui sert, j'espère.
Oui, un coup de cœur pour Niagara de Catherine Mavrikakis aux éditions Héliotrope, un roman. Oui, un roman qui revêt les allures de carnet personnel ou de récit fantaisiste. La narratrice, qui pourrait être Catherine Mavrikakis, mais qui ne l'est pas tout à fait, a perdu sa mère et elle confond souvenir et imagination dans l'obsession des chutes Niagara. Dans un tourbillon de la mémoire, elle nous traîne de la Louisiane au Québec dans la violence des chutes et le courant énergique du Mississippi.
Génial.
Émouvant, tendre, confondant, l'autrice ne cesse de glisser des connaissances comme des points de repère dans cette longue dérive de la narratrice. Un roman vigoureux à l'écriture vive et limpide.
Vous avez déjà été au Chute du Niagara?
Oui.
Mais c'est très bien. Patrice Lecomte, et Chute du Niagara, vous avez fait?
Oui, je connais.
Bon, merci Mike Vienno, Niagara de Catherine Mavrikakis. À très bientôt. Avant de conclure, le son de l'outre-mer avec le groupe martiniquais La Perfecta qui sort un coffret pour ses 50 ans de carrière. Voici un extrait de l'un de ses succès paru en 1979.
Parce que je suis content. Moi, quand mes témoins.
C'était La Perfecta, groupe culte de la Martinique qui célèbre ses 50 ans de carrière. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, David Le Prince avec Vincent Désière. À la rédaction, Jean-Philippe Verret avec Alice Rouet et Christophe Magère de France Inter avec les équipes de la RTS, de la RTBF et de Radio-Canada. Thierry Dupin à la prog musicale. La semaine prochaine, le grand chef Guy Savoy, Anne Essel, la fille de Stéphane Essel, Véronique Sels et Nicolas Rey. Bonne semaine, bon week-end à tous. À bientôt. Et n'oubliez pas la rediffusion de la librairie francophone à 1h du matin avec le bonus créole. À suivre, Affaires sensibles avec Fabrice Drouel autour de Florence Artaud avec Yann Kefelec.
En Amérique, on peut entendre les langues autochtones.
L'anglais, l'espagnol,
le portugais,
le créole
et évidemment le français. Tout comme son continent, la francophonie des Amériques est belle, vaste et diversifiée.
Saviez-vous que partout au Canada, on peut étudier en français de la garderie à l'université?
On retrouve d'ailleurs plus de 20 universités francophones d'un océan à l'autre.
La culture francophone y est aussi célébrée dans de nombreuses fêtes et festivals,
même jusqu'à Saint-Pierre et Miquelon.
Au 19e siècle, les Canadiens français ont traversé la frontière du Sud en si grand nombre qu'on y retrouve aujourd'hui des millions de leurs descendants.
Il y a plusieurs villes majoritairement francophones en Nouvelle-Angleterre.
On redécouvre la valeur économique du français en Louisiane et on retrouve de nombreuses populations francophones à New York, en Floride et jusqu'en Californie.
D'est en ouest, le français résonne.
Dans les Caraïbes, c'est plus de 9 millions de personnes qui s'expriment en français. Les festivités culturelles sont nombreuses, soulignant à la fois leur héritage français et créole.
Plus au sud, en Amérique latine, savez-vous que le français est la 2e langue étrangère la plus étudiée? Son enseignement est obligatoire au Costa Rica, alors que c'est au Brésil qu'on retrouve le plus grand nombre de francophones.
Au-delà de l'éducation et de la culture, il y a des commerces, entrepreneurs, restaurateurs et industries qui offrent des services en français d'un bout à l'autre des Amériques.
Mais la francophonie des Amériques a encore des défis à relever.
Partout, la demande pour apprendre le français dépasse l'offre.
On manque d'écoles francophones, d'écoles d'immersion et aussi de professeurs.
Ensemble, communiquons,
vivons, travaillons pour faire rayonner cette francophonie des Amériques.
Nous sommes Québécois, Acadiens,
Franco-Tico,
Guadeloupéens,
Franco-Ontariens,
Métis-Italiciens.
Nous sommes la francophonie.
Tribute to the funk. Oh, we love the band. Leave it alone, Tima. Now say, Tima. 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 Leave it alone, Tima. Now say, Tima.
Merci beaucoup.